Vous en voulez encore plus? Aucun problème. On est là. Visitez le cjso.ca.
CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour, à l'émission aujourd'hui, maintien à domicile et proche aidance. Mes invités, Geneviève Coutu pour sa croisade très médiatisée en faveur des proches aidants, Kathleen Salvaille, maman de deux enfants en besoin particulier, Marguerite Blais, ex-ministre responsable des proches aidants, Nicole Léger, ex-ministre devenue proche aidante, Francine Laplante, travailleuse de milieu, et Claudine Kelleny de l'Association des aidants naturels du Bas-Richelieu. Je leur parle après la pause.
Vous manquez de temps la semaine pour magasiner une auto? Bonne nouvelle! Hyundai et Kia Sorel-Tracy sont maintenant ouverts le samedi. Plus de 100 véhicules d'occasion de toutes marques pour tous les budgets. Avec plus de 1200 transactions en 2025, nous offrons le plus grand inventaire de voitures d'occasion certifiées du secteur de Sorel. Et profitez de taux à partir de 3,99%. Choix, flexibilité, économie. Le samedi, ça se passe chez Hyundai et Kia Sorel-Tracy.
Ne laissez pas le son s'effacer.
Papa, papa?
Entendre, c'est rester relié à ceux qu'on aime. Centre Massilia Audioprothésiste. Plus de 20 cliniques sur l'île de Montréal, Rive-Nord et Rive-Sud. Faites-vous accompagner. Visitez centremasslia.com.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
L'approche aidance est plus complexe qu'il y paraît. Elle requiert non seulement les capacités individuelles à prendre soin d'une ou d'un proche en perte d'autonomie, mais aussi la capacité de l'État et du réseau de la santé à reconnaître, à intégrer, à soutenir les proches aidantes et les proches aidants comme les alliés indispensables qu'elles sont. Puis il n'y a pas de proche aidant type, on retrouve des personnes proches aidantes dans toutes les tranches d'âge, toutes les situations d'emploi sont aussi représentées, certains occupent un emploi à temps plein, d'autres à temps partiel, d'autres sont retraités, d'autres sont aux études, ce sont parfois des célibataires, parfois ils sont en couple, parfois ils font partie d'une famille traditionnelle ou reconstituée. Je débute l'émission avec deux femmes qui ont vécu la proche aidance différemment. Geneviève Coutu a accompagné son conjoint atteint d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer pendant 5 ans. Il est décédé il y a peu de temps. Bonjour, bonjour. Geneviève. Kathleen Salvaille, elle est maman de deux enfants à besoins particuliers. Bonjour, Kathleen.
Bonjour.
Geneviève, c'est pas bien longtemps après que tu aies marié Louis qu'il a développé les premiers symptômes de la maladie. Raconte donc ça.
Dans le fond, il a commencé les symptômes avant. Il a eu son diagnostic en octobre, mais on s'est marié en août. Donc, oui, on s'est mariés en sachant que peut-être qu'il y avait quelque chose, mais c'était pas encore établi, c'était pas encore... Puis lui, son rêve, c'était de se marier, fait que j'ai donné ça, puis en octobre, il a eu son diagnostic.
Tu t'es mariée même sachant que quelque chose commençait à se présenter, d'autant que, contredis-moi si je me trompe, d'autant que son père avait lui-même vécu ça, l'Alzheimer précoce, c'est génétique.
C'est génétique dans sa famille, oui.
La maladie a évolué, elle a forcé Louis à quitter son emploi.
Aussitôt qu'on est allé voir le médecin dans le bureau parce qu'on pensait qu'il y avait peut-être quelque chose, même avant qu'il y ait le diagnostic, le médecin il a arrêté de travailler par précaution et il a arrêté de conduire par précaution aussi. Donc, au mois de mai 2020, tout de suite, il avait plus, il travaillait plus. Puis, ben, tu sais, il était en maladie, arrêt de travail, mais tu sais, ouais. Après le diagnostic, ils l'ont arrêté officiellement.
C'était quelqu'un, Louis, de... Il travaillait où, Louis?
À Varennes, chez Taglif, à Varennes.
Okay. Et c'était quelqu'un de très, très actif aussi dans la communauté. Oui. C'était un sportif, c'était pas entraîneur.
Il était coach de hockey. Ben, Louis a joué au hockey haut niveau, là. Même quand il était jeune, il a fait le tournoi Pee-Wee de Québec. Quand on tape son nom sur Internet, on le voit dans les Elite Prospects.
Alors, c'est Louis...
Lafrenière.
Oui,
puis il était coach de hockey. Moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré. C'est le coach de hockey de mon fils.
C'est vrai?
Oui.
OK. Alors, la maladie force donc Louis à quitter son emploi. Ce que tu as fait aussi, toi, quitter ton emploi pour à temps plein l'accompagner?
Oui.
Tu as fait ça assez rapidement aussi, quitter ton emploi? Quand il a décliné?
Au début, vu que c'était pendant la COVID, il faisait des mises à pied à mon travail. Puis comme je voyais qu'on était dans les examens pour Louis, j'ai demandé à ce que je fasse partie des personnes qui se faisaient comme slacker, comme on dit.
Oui.
Fait que j'ai demandé d'en faire partie. Puis ça a duré comme ça un an et demi. Fait que j'ai pu l'accompagner pendant un an et demi. Mais par la suite, ils m'ont demandé de revenir. Je suis revenue 2-3 mois, épuisée bien raide, parce que lui commençait à... Tu sais, comme on dit, il sort dehors, puis il fait de l'errance, il se lève la nuit, puis tout. Fait que je suis en arrêt de travail parce que j'étais brûlée. Je suis retournée travailler après ça pendant plusieurs mois. Puis par après, j'ai pris le chômage proche aidant de 16 semaines. Puis par la suite, le médecin, il pensait que Louis, il en avait pour moins de 6 mois. Ça, c'était en août 2023. Puis février 2024, il est encore là. Fait que j'ai dû quitter mon emploi.
Alors, tu t'es refusé, toi, là, jusqu'à la fin, de le voir finir ses jours en CHSLD.
Ah non,
je voulais pas. Parce que ça aurait été ça, là, la perspective, si tu t'étais pas occupé de lui à la maison.
Ouais.
Et pour l'accompagner à la maison jusqu'à la fin, qui est encore relativement récente, il est décédé il y a quoi maintenant?
Le 14 novembre.
Bon, ça fait pas bien longtemps. Non. Alors, pour l'accompagner à la maison jusqu'à la fin, il a fallu que tu sacrifies toutes tes économies, que tu grèves ton fonds de pension. Tu t'es presque mis dans la rue avec ça?
Oui, je t'ai rendu que j'allais faire des collectes de dons dans les épiceries. J'avais ma petite boîte, ma petite table, ma chaise. Je demandais des dons. J'ai fait un GoFundMe. Puis, ce qui m'a sauvée beaucoup, c'est que j'ai créé un TikTok pour dénoncer la situation que les proches aidants ne sont pas rémunérés. Mes abonnés ont explosé là, en peu de temps. Puis, les gens ont commencé à me donner des dons de papier de toilette, de sous, de savon à linge. Les gens me donnaient des dons pour m'aider à garder Louis à la maison, ce qui fait en sorte que cet été, j'ai pu me concentrer sur les pétitions que j'avais sorties au lieu d'aller faire des collectes de dons.
Bon, alors c'est parce que t'as vécu ça, là, cette insécurité financière, que tu as parti cette croisade pour que les proches aidants qui font à l'État économiser de l'argent reçoivent une allocation.
Oui. Hein?
La ministre Sonia Bélanger a dévoilé sa politique nationale de soutien à domicile intitulée le Mieux chez soi il y a quoi, 2-3 semaines. Elle a annoncé que pas les, mais des proches aidants pourront désormais être rémunérés pour s'occuper d'un membre de leur famille malade, en perte d'autonomie ou vivant avec un handicap. On l'a invité, Mme Bélanger, on lui a déroulé le tapis rouge, on était prêt à enregistrer l'entrevue au moment qui lui convenait. Son cabinet nous a répondu qu'elle n'avait pas le temps. Son cabinet nous a promis une déclaration écrite. Je l'ai reçue. Je vais la lire, Geneviève, c'est pas très long, parce que je veux t'entendre y réagir ensuite. Alors là, il y a de gros guillemets qui s'ouvrent, là. C'est okay. La ministre qui parle, elle nous a envoyé ça, son texte est le suivant. « L'objectif de la politique nationale de soutien à domicile est clair, permettre aux personnes vivant avec une incapacité de demeurer à domicile le plus longtemps possible, dans le respect de leur bien-être et de leur dignité. » L'une des mesures phares de cette politique est la transformation du chèque emploi-service vers l'allocation d'autonomie à domicile. Ce nouveau cadre de référence marque un changement important. Il permet désormais aux proches aidants qui le souhaitent d'être reconnu comme travailleur de l'aide à domicile et d'être rémunéré en partie. C'est une avancée majeure pour la reconnaissance du travail essentiel des proches aidants. Jusqu'à maintenant, il leur était impossible d'obtenir une quelconque rémunération pour les soins et le soutien qu'ils offraient au quotidien. À partir d'aujourd'hui, nous changeons cette réalité. Si l'usager et le proche aidant y consentent, l'usager pourra engager son proche aidant à titre de travailleur de l'aide à domicile. Fermez les guillemets. Cette déclaration te dit quoi, Geneviève? Qu'est-ce que tu en comprends? Le sentiment qui t'habite, là, est-ce que c'est celui d'avoir gagné la bataille que tu menais en faveur de la rémunération des proches aidants?
Je vais trier des mots méchants dans mon cerveau, puis je vais parler avec des beaux mots. Pour moi, ça ne veut rien dire. Chaque CLSC fonctionnait d'une façon différente. Il y a plusieurs CLSC qui permettaient déjà ça. Nous, le CLSC ici ne le permettait pas, que les proches aidants soient rémunérés. On augmente d'une pièce de l'heure. Dans le fond, c'est un peu comme si on avait pris le chèque.
C'est quoi, c'est 21 $ là?
Oui, c'était 20 avant, là, c'est 21.
Là, c'est 21.
Dans le fond, c'est comme si elle avait pris le chèque emploi-service, elle l'a changé de nom. Elle a décidé que ce que beaucoup de CLSC faisaient déjà, bien, toutes les CLSC, il va falloir qu'ils l'offrent, puis ça ne change rien. Parce que moi, mon but, c'était que les proches aidants ne s'appauvrissent pas, puis qu'ils puissent garder leur personne à la maison. Mais là, si on dit, on va les rémunérer à partie. Puis là, comment est-ce que le chèque emploi-service fonctionnait? C'est qu'on calculait tant pour une douche, tant pour un repas, tant pour aller faire l'épicerie de la personne. Je ne sais pas toutes les affaires qu'il peut avoir. Mais quand il faut que tu sois là 24/7, si tu me donnes 15-20 heures semaine à 21 piastres à l'heure, je peux pas arrêter de travailler, fait que ça règle pas le problème.
Est-ce que quelqu'un a bénéficié d'un chèque emploi-service pour te prêter support à la maison auprès de Louis? Oui.
Oui.
Bon, si le plan, c'est que l'aidante ou l'aidant, en échange de recevoir l'allocation, ne puisse plus bénéficier de l'aide extérieure qui venait avec le chèque d'origine.
Voilà.
Tu décroches ou tu marches là-dedans?
Bien, je décroche parce que moi...
Mais on ne le sait pas, par exemple, parce qu'elle n'est pas là pour répondre à nos questions.
Non, mais dans le fond, moi, les heures que j'avais, c'était pour du répit, ce qui était extrêmement important. C'était du 24/7. Là, je peux prendre ces moments-là pour aller... juste décanter, juste aller marcher, aller faire l'épicerie, aller à des rendez-vous. Tu sais, ou mettons, j'avais énormément de ménage à faire. Moi, c'était mes filles que j'engageais. Bien, ils venaient faire mon ménage, ça aidait beaucoup. Mais là, si on donne juste en partie, ça veut dire que là, on va être rémunéré, mais on n'aura plus de répit. Les gens vont tous s'en aller dans des institutions, de toute façon, que ce soit des enfants à besoins particuliers ou des personnes comme mon mari, on n'a plus les moyens d'arrêter de travailler.
Tu as pu bénéficier de quelles ressources humaines de l'État, là, du CLSC, pendant la maladie de Louis? As-tu eu beaucoup d'aide?
Ben, Louis avait une travailleuse sociale, une éducatrice, une ergothérapeute, médecin, infirmière. Un moment donné, il y avait une nutritionniste aussi, mais puis des ASSS qui venaient deux fois par jour.
Tu nous as, sur Facebook et TikTok, partagé une partie de ta vie avec Louis. Tu l'as fait presque quotidiennement. Je te suivais, je le sais. Et tellement que Louis, on est probablement nombreux qui avons fini par penser qu'il était membre de notre famille. T'sais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça.
Ça a été dur quand il est décédé.
Bon, c'est ça. Tu l'as fait presque quotidiennement jusqu'à quelques semaines de son décès. À un moment donné, tu as arrêté. Là. Dans quel esprit tu as fait ça?
Moi, dans le fond, ça a pris tout mon petit change que je m'expose moi-même et j'expose mon mari sur TikTok. Je l'ai fait parce que plusieurs personnes, quand je faisais mes collègues de dons, me disaient « Tu devrais en parler sur les réseaux, tu devrais en parler. » Mais moi, je pensais que moi, je serais pas assez parce que je savais à quel point que mon mari était attachant puis qu'il était cute. Puis j'ai dit « Je veux qu'il mette un visage sur la personne qui pourrait possiblement être placée parce que j'ai pas les moyens. » Puis ça a fonctionné parce que les gens se sont attachés, puis ils m'ont aidé pour pas que je le place.
T'as parti deux pétitions, puis t'en as eu des signataires,
oui.
Notamment pour que justement les proches aidants puissent bénéficier d'une rémunération. Là, je vais être bien rapidement parce que le temps file. Je vais me tourner du côté de Kathleen. Geneviève, tu as accompagné ton mari. Vous, Kathleen, ce sont vos enfants en besoin particulier que vous accompagnez. Parlez-moi d'eux rapidement, là, de votre quotidien auprès d'eux.
Oh mon Dieu, ben c'est très occupé. J'ai un garçon qui a bientôt 12 ans. Lui, c'est du TSA, un TDAH. Il va à l'école en classe spécialisée. Ça va relativement bien. C'est sûr qu'il y a de l'accompagnement à faire, bien évidemment, mais c'est pas au même niveau que ma fille. Ma fille, elle, elle est lourdement handicapée avec de nombreux diagnostics. Ça demande un accompagnement un dans le langage et de 24 heures sur 24.
Est-ce que l'État vous offre du support à la maison, répit, gardiennage, Kathleen, quelque chose là, pour que vous ne vous épuisiez pas?
Oui, mais c'est pas assez pour éviter l'épuisement. Parce que ben j'ai accès au chèque emploi-service. Je ne peux pas me rémunérer moi-même parce qu'on dit que c'est mon enfant et que c'est la tâche de tout parent de veiller à ses enfants là, jusqu'à 18 ans. Fait que moi, je suis sûre et certaine que...
Vous pensez que
tous
vous
les
serez exclu?
Oh, oui, c'est tous les parents dans les groupes. Ah, oui. C'est ce qu'on discute. On se fait déjà dire ça là. Elle n'en a jamais parlé. Moi, c'est ça qui m'a choquée. Ça l'a pas, elle n'a jamais parlé des enfants, des parents qui s'occupent d'enfants qui vont avoir besoin de proche aidance pendant peut-être 40, 50 ou 60 ans. Énorme.
Vous allez exactement où j'allais. On parle du présent. L'avenir, comment vous l'envisagez? Ce qui vous fait peur et ce qui vous angoisse de penser que votre proche aidance, à vous, elle pourrait s'étendre sur ce que vous venez de dire, là, des années et des années?
J'ai pas beaucoup d'options. L'option, c'est soit la précarité financière, parce que, veux pas, à 21 ans, ils n'ont plus vraiment de services, ils n'ont plus accès à l'école, ils tombent dans une espèce de trou noir qu'on appelle, et c'est connu depuis au moins 20-25 ans de tout ça, là, qu'à partir de 21 ans, les personnes qui ont des handicaps, ben ils ont vraiment moins de services, ils tombent sur les services d'âge adulte, et ben ils n'en ont pas. Ils tombent sur l'aide sociale, fait que moi, je vais perdre le chèque que j'ai pour mon enfant à besoins particuliers, là. Je le perds au profit de l'aide sociale, et on va avoir quelques petits centres de jour qui ont probablement des listes d'attente. Fait qu'on tombe, on retombe sur les listes d'attente pour tous les services. C'est sûr que moi, comme personne, ben j'ai le droit à ma vie, hein. Fait qu'éventuellement, il va falloir que je pense à un placement parce que c'est pas une
puis
vie,
ça
trop épuisant.
Ça vous brise le cœur, j'imagine.
Absolument.
C'est épouvantable.
On va maintenir mon enfant le plus longtemps possible, mm-hmm. tant et aussi longtemps que sa sécurité n'est pas mise en jeu, parce que c'est une question de sécurité, en gros. Hein.
Je comprends.
On n'a pas l'aide. Très peu.
On dit de la charge mentale, tu sais, le travail invisible de planification puis de gestion du foyer, qu'elle pèse davantage la charge mentale sur les femmes que les hommes. Moi, j'ose à peine imaginer votre charge mentale. Comment vous parvenez à gérer ça? Comment vous y parvenez?
On essaye.
Vous devez être épuisé, pas juste
tout le temps.
Physiquement, mais psychologiquement. Là.
Oh oui, je fais de l'anxiété généralisée. J'ai plusieurs, moi-même, petits diagnostics qui sont liés à tout ça. Il y a des troubles anxieux, il y a un post-trauma de tout ça. C'est sûr que un moment donné, j'ai été chercher l'aide. Fait que je me suis formée. J'ai pu accompagner mes enfants mieux. C'est sûr que quand que tu te formes, tu as plus d'outils. Mais c'est aux parents de tout faire. Il faut que tu sois l'orthophoniste, il faut que tu sois... Tu as tellement peu d'aide du gouvernement, puis il est tellement comme périodique. Comme là, moi, mes enfants, présentement, ils n'ont pas d'aide. Le CLSC ne vient plus chez moi, je n'ai plus de TS au dossier. On est en stand-by.
Pourquoi on vous dit qu'on n'a pas les ressources?
Parce que les services sont périodiques.
Hein?
Mais c'est que mon enfant n'est pas handicapé périodiquement. Elle l'est
non,
en tout
ça,
temps.
Non, c'est ça. C'est pas périodique, son affaire.
Puis,
est-ce qu'il y a des ressources externes, communautaires?
Communautaires, oui. On a l'ADIR ici qui offre des services. Il faut les payer. Mais j'ai le soutien à la famille qui est un chèque pour le répit et gardiennage. Mais ça, bizarrement, ben c'est coupé d'année en année. Moi, j'en ai moins. Mais les services, eux, les prix baissent pas. Fait ils parlent de nous offrir un nouveau... allocation, mais moi, dans un autre chèque, ben je suis coupée. Puis on est tous coupés. L'année passée, là, les comment tu dis ça, on va réévaluer les dossiers, là. C'est avril, le mien, il est dû. Il a fallu que j'appelle le CLLC moi-même pour leur dire, écoute, mon chèque s'en vient, il va être échoué. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? J'ai-tu besoin d'un rendez-vous? Ils m'ont même pas rappelé encore pour m'offrir mon rendez-vous.
Mais là, je suis obligé de nous interrompre pour une pause suite à laquelle je vais parler à deux ex-ministres, Marguerite Blais et Nicole Léger.
La Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires vous présentent la bonne nouvelle économique.
Le groupe Bell Canada est fier d'annoncer que son usine de fabrication Babybel à Sorel-Tracy est désormais zéro enfouissement. L'ensemble des matières résiduelles générées par l'usine n'est plus envoyé à l'enfouissement depuis le 1er décembre. Cette réalisation illustre l'engagement de Bell à l'égard de l'économie circulaire et d'une gestion responsable des matières résiduelles. Au Canada, le gaspillage alimentaire demeure un enjeu majeur. Bell souhaite contribuer avec des initiatives comme le programme Zéro gaspillage à transformer des produits légèrement endommagés en dons au programme Après la cloche et au Club des petits déjeuners. Ces engagements représentent une valeur de plus de 150 000 $, l'équivalent de 531 700 repas pour les banques alimentaires du Canada et plus de 500 enfants nourris par le Club des petits déjeuners pendant l'année scolaire.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Testez vos connaissances et courez la chance de gagner des prix. En cette semaine de l'inclusion sociale Pierre de Sorel, participez au quiz en ligne sur inclusion, trait d'union, pds.com ou trouvez une version papier dans les bibliothèques, les bureaux municipaux ou dans le journal Les Deux Rives. À vous de jouer! Tenons-nous main dans la main pour une communauté tissée plus serrée. Une initiative collective des partenaires du chantier de la campagne annuelle de la Table de développement social Pierre de Sorel.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Marguerite Blais a été ministre responsable des aînés de 2007 à 2012 sous le gouvernement libéral, puis dans une seconde vie politique avec la coalition Avenir Québec de 2018 à 2022, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Elle a aussi connu pour sa longue carrière à la radio et à la télévision. Bonjour Marguerite Blais.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien, merci d'avoir accepté mon invitation.
Un plaisir.
Geneviève Coutu m'a partagé pendant le premier segment de l'émission son vécu de proche aidante. Elle a pendant des années entourée d'affection et de soins son mari aux prises avec une forme précoce de la maladie d'Alzheimer. Elle a abandonné le marché du travail pour s'occuper à la maison de lui. Elle en a arraché financièrement. Que vous ont appris, Madame Blais, sur les aidants naturels, vos fonctions de ministre responsable des proches aidants?
Ben écoutez, si je suis revenue en politique en 2018, c'est premièrement pour mettre en place une politique et un plan d'action en faveur des personnes proches aidantes. Ayant été moi-même proche aidante de mon mari, je me suis rendu compte que, écoutez, on devient pharmacien, préposé, infirmière, on devient tout. Et quand la personne malade est prise en charge à l'hôpital, bien, je veux dire, c'est l'hôpital, c'est le milieu hospitalo-centrique qui s'occupe véritablement de la personne. Mais la journée où ce patient, ce malade, repart à domicile, bien, c'est la personne proche aidante qui doit s'en occuper. Et on devient complètement démuni face à cette maladie-là. Et je dois vous dire que quand j'ai été ministre dans le gouvernement de M. Charest, j'avais pas des fonctions qui étaient rattachées aux personnes proches aidantes, mais il y avait comme un mécanisme d'organisme communautaire qui me poussait dans le dos. Alors, on a fait reconnaître la Semaine nationale des personnes proches aidantes par l'Assemblée nationale. Et par la suite, il y avait Chloé Sainte-Marie qui était une porte-parole assez vigoureuse pour les personnes proches aidantes. Elle m'a beaucoup talonnée, puis ça m'a permis d'aller chercher des montants additionnels du gouvernement pour être en mesure de donner un peu de souffle aux personnes proches aidantes. Puis, je suis allée voir M. Chagnon, qui était de la Fondation Chagnon, M. Chagnon qui avait été propriétaire de Vidéotron, et je lui ai demandé des sous pour partir un fonds de soutien aux personnes proches aidantes, puis il m'a dit, écoutez Marguerite, il dit, moi je m'occupe des enfants avec ma fondation, je m'occupe pas des personnes âgées, puis j'ai dit, Monsieur Chagnon, votre femme a la maladie d'Alzheimer. Alors c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir 50 millions de la fiducie familiale Chagnon, et 150 000 $ du gouvernement du Québec pour partir un fonds. Fait que ça a été dans une première partie. Mais quand j'ai quitté en 2015, mon mari venait de décéder le 27 mars et j'étais complètement dévastée. J'ai été proche aidante, il est mort dans mes bras. C'est comme si j'étais passée de l'autre côté du miroir totalement. J'ai dit, faut faire quelque chose et j'ai écrit un livre sur les personnes proches aidantes avec des témoignages. Et la conclusion était qu'il fallait absolument qu'un gouvernement s'engage à mettre en place une politique, un plan d'action en faveur des personnes proches aidantes. Et là, c'était l'année électorale et le hasard de la vie a fait en sorte que j'ai été approchée à la fois par M. Couillard, j'ai été réapprochée par lui alors que j'avais quitté, j'ai été approché par François Legault, qui a accepté, lui, de s'engager, même si j'étais pas élue, à mettre en place une politique. Puis on a même fait voter une loi. Il est allé plus loin, M. Legault, il m'a permis parce que je voulais qu'on ait une loi pour être capable d'enchâsser dans la loi la politique, le plan d'action, la reconnaissance des personnes proches aidantes, parce que je me disais, si le prochain gouvernement veut pas d'une politique, c'est plus facile à mettre sur une tablette, mais une loi, c'est beaucoup plus difficile à détricoter, voyez-vous.
Et alors, je dois aller rapidement, Madame Bélanger. L'actuel titulaire du titre là, de ministre responsable des proches aidants vient de sortir sa politique à elle, mieux chez soi. Est-ce que vous avez pu un peu la parcourir? Est-ce qu'elle annonce avec un titre pareil ce tournant qui va permettre à plus de gens de vivre chez eux puis à leurs proches de s'en occuper sans se ruiner?
Ben écoutez, je ne vais pas faire de critique par rapport à Mme Bélanger. Je serais mal placée, mais... Tout mentionne partout, à travers le monde, que les gens veulent vieillir à la maison le plus longtemps possible. Vous savez, c'est 2,8% de personnes qu'on retrouve en CHSLD ou en maison des aînés. 90% des gens sont à domicile. Maintenant, ben c'est beau dire à domicile, mais il faut soutenir les personnes proches aidantes. Et je sais que dans sa politique, il y a une allocation à l'autonomie à domicile. C'est le fameux chèque emploi-service.
Oui, qui existait déjà.
Ouais, c'est le chèque emploi service. Fait que le chèque emploi service là, c'est la personne qui est malade, qui reçoit, qui est évaluée par un travailleur social en général, et qui lui dit, le travailleur social lui dit, par exemple, vous avez besoin de 10 heures de soins par semaine, on vous donne un chèque et vous employez une personne et vous la dédommagez à hauteur de 21 $.
Et désormais, le proche aidant va avoir droit à ça. Il avait pas droit à ça.
Le proche aidant, non, les proches aidants avaient pas le droit à ça. En 2018, là, même le conjoint avait pas le droit au crédit d'impôt pour les proches aidants.
Pourquoi est-ce si compliqué? Je m'excuse, c'est frustrant, c'est très bref comme entrevue, mais pourquoi est-ce si compliqué, Madame Blais, ou apparemment si compliqué, de prendre ce tournant réclamé par tous en faveur du maintien puis des soins à domicile?
Je sais, la fiscalité au Québec est compliquée. Quand on arrive avec des crédits d'impôt, des chèques emploi-service, on se rend compte que ce sont des milliers, des milliers, des millions de dollars de plus. T'sais. Alors, les gens au gouvernement étudient ça sur toutes les coutures. Ça implique quoi de plus pour les gouvernements? Mais je suis un peu comme José Legault, qui est politicologue là, puis chroniqueuse au Journal de Montréal. Quand tu places une personne en CHSLD, c'est 100 000 $ par année. En ressources intermédiaires, c'est aux alentours de 70 000 $ par année. À la maison, c'est beaucoup moins. Mais il y a un hic. Puis le hic, c'est important de le dire. À un moment donné, la personne ne peut plus rester à la maison. Quand elle a besoin de soins 24 heures sur 24, faut pas que le proche aidant décède avant la personne qui est malade. C'est pour ça qu'il y a 2,8% de personnes qui se retrouvent en CHSLD. C'est l'extrême limite, c'est la dernière demeure, le CHSLD. On veut que les gens restent à la maison, mais ça prend des services. Il manque de gens pour donner les services, il manque de moyens, mais il faut que ce virage-là se fasse. C'est au Québec... À travers le Canada, je crois, où on investit le moins par rapport
Marguerite Blais,
aux soins à domicile.
Marguerite Blais, c'est très intéressant. C'est beaucoup trop court. Une dernière question en 20 secondes. Là, il y a ce fameux programme Municipalité Amis des aînés, là, vous le connaissez. Le Québec
ben,
est-il...
C'est moi qui l'ai mis sur pied.
Alors, vous le connaissez d'autant. Est-ce que vous diriez du Québec qu'elle est une nation amie des aînés, autant qu'elle le devrait, autant qu'elle le pourrait?
Non, on fait trop d'âgisme. Je vous le dis, là, on fait encore trop d'âgisme. On a parlé beaucoup des aînés pendant la pandémie. Là, on en parle seulement quand il arrive des drames. J'ai comme l'impression, moi, que les aînés font encore partie d'un peuple invisible. Il va falloir que collectivement, c'est pas seulement à cause des gouvernements, hein, c'est toute une question de société. C'est nous, c'est vous, c'est moi. C'est nos voisins. Il faut qu'on se préoccupe de nos personnes âgées qui deviennent vulnérables avec le temps, ce sont les gens qui ont bâti notre route, on est les fruits de cet arbre-là. Et je trouve qu'on ne s'en occupe pas assez collectivement de nos personnages.
Marguerite Blais, merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien.
Ça m'a fait le plus grand des plaisirs. Merci, c'est vous que je remercie.
D'une ex-ministre à une autre, nous joignons celle qui fut députée de Pointe-aux-Trembles de 1996 à 2006 et de 2008 à 2018. Elle a été ministre déléguée à la famille et à l'enfance dans le cabinet de Lucien Bouchard, ministre déléguée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le cabinet de Bernard Landry, ministre de la famille dans le cabinet de Pauline Marois. Bonjour, Nicole Léger.
Bonjour.
Vous ne vous êtes pas représentée, Nicole, aux élections de 2018. Puis quand on vous demandait pourquoi, la réponse, elle était immédiate, pour pleinement assumer mon rôle d'aidante naturelle auprès de ma maman. Est-ce que ça a été difficile de tirer un trait sur votre vie politique, de décider que c'était terminé?
C'est toujours avant, c'est toujours long avant, mais une fois que c'est décidé, c'est fait. On regarde en avant. Permettez-moi, Sylvain, de saluer vos invités, là, Mme Couture, Mme Salvaille, leur courage, leur goût de faire avancer les choses. Là. Et Marguerite Blais, évidemment, là, c'est toutes des gens qui sont complètement dédiés là, à cet avancement-là pour faire reconnaître les proches aidants.
Ce que pratiquement toutes les personnes proches aidantes ont en commun, c'est qu'elles n'étaient pas préparées à assumer ce rôle-là lorsque la nécessité de l'assumer est survenue dans leur vie. C'est certainement vrai pour Geneviève et Kathleen qui sont en studio avec moi. Vous, est-ce que vous vous y étiez préparé physiquement, mentalement?
Je ne pense pas qu'on se prépare à ça. Puis je ne suis pas sûre qu'il y a toute une préparation parce que chaque personne qu'on aide, moi c'est ma mère de 96 ans, chaque personne qu'on aide, elles sont uniques. Alors c'est sûr qu'il y a un profil général, là. Qu'est-ce que c'est d'être proche aidante, puis on aide qui? Mais lorsqu'on parle d'enfants déficients, ou lorsqu'on parle d'une femme, une aînée comme de 96 ans, qui est encore capable de fonctionner, moi, je demeure à côté d'elle. On est dans un immeuble, là, et elle demeure dans l'appartement à côté de moi, puis moi, je suis dans l'autre appartement. Elle a un petit 4,5, puis moi, j'ai un 5,5. Alors, je suis à porte à porte. Alors, elle peut pas rester seule. Elle reste seule dans son petit 4,5, mais c'est à côté. Je vais 10-15 fois chez elle. Je fais les repas. Je m'occupe de tout son quotidien, là, l'administration quotidien, l'aider, ménage, là, tout son. Elle a des soins de CLSC qu'elle a trois fois semaine. On a évalué ça à trois fois semaine à ce moment-ci parce qu'elle veut aussi être encore très, très vigilante. Elle marche difficilement avec une marchette. Mais ça reste que je trouve soit là. Je peux pas quitter. Alors, si je quitte, il faut que j'aille de l'aide. Donc, il faut que j'aille une personne qui peut venir garder si je vais partir 3-4 heures, ou etc. Là. Alors, on se trouve toutes sortes de moyens là, de comment faire, mais je suis responsable 24 heures sur 24 d'elle. Là.
Il y a une grande diversité d'enjeux, là, vous en avez nommé quelques-uns, qui peuvent peser lourd sur des personnes proches aidantes. Est-ce qu'elles sont les personnes proches aidantes suffisamment appuyées par l'État?
C'est très difficile à dire parce que j'étais aussi au gouvernement, puis je me souviens de toutes ces discussions-là, puis toute cette aide, puis l'investissement. Puis on augmentait l'investissement au maintien à domicile, on augmentait des aides répit, on augmentait l'aide dans les centres de jour, les ressources communautaires, les ressources au CLSC, davantage d'heures soins, les gens demandaient plus d'heures soins, donc des gens, des ressources pour les heures soins. Il y a plein de choses quand tu es dans un ministère ou que tu es dans un gouvernement, que tu aides de bord et l'autre, là. Mais c'est jamais suffisant, puis c'est sûr que c'est pas le salaire, puis c'est pas une allocation que tu donnes aux proches aidants. Moi, à cette époque-là, on était plus dans beaucoup de choses à faire avant ça, mais encore là, regardez, je le vis au quotidien, là, même fiscalement, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, personnellement, je suis chanceuse à la retraite, c'est pas comme vos mamans, Mme Couture, Mme Salvaille, Mme Salvaille, entre autres, qui s'occupe de ses enfants, c'est du temps plein actuel avec ses enfants. Il y a un emploi, mais moi, je suis à la retraite là, politique, d'une part. Fait que j'ai du temps, j'ai 24 heures/24, je ne le mets pas ailleurs, je le mets chez ma mère. Mais il reste quand même que fiscalement, tu sais, moi, je ne suis pas à la même adresse. Fait que déjà, fiscalement, il faut que tu sois à la même adresse si tu veux être proche aidant. Et pas atteindre d'aucune déficience, si ce n'est qu'elle perd la mémoire un peu, moins mobile, et elle n'a pas un revenu faible. C'est que c'est des critères de base qu'ils demandent, mais que moi, ça, nous, on ne correspond pas du tout dans rien dans ça.
Et la perception, Nicole, la perception de la proche aidance, est-ce qu'elle n'est pas, par ailleurs, beaucoup influencée par les a priori culturel, j'appellerais ça comme ça. Combien de personnes considèrent qu'il va de soi que des adultes prennent soin de leurs parents vieillissants, que l'État n'a pas supporté ça, que c'est naturel, que c'est normal qu'il le fasse? Il y a des gens qui diront la même chose pour des parents d'enfants qui ont des problématiques multiples. Ben, c'est leur rôle, c'est leurs parents qui s'en occupent.
Non, mais ça dépend aussi de la société qui se donne. Tu sais, quand on dit qu'on s'occupe de nos enfants, moi, je me suis beaucoup impliquée avec toutes les CPE, les services de garde. C'est une société qui décide de donner des programmes ou mettre sur place des différentes politiques, différents programmes pour aider des valeurs qui te sont importantes. Les enfants le sont pour une société. Les aînés le sont pour une société. Les enfants ont besoin de participer. Alors, la société doit aussi, autant le gouvernement que la société elle-même, doit se dire, ça, c'est nos valeurs. On y croit. Autant qu'on croit à l'égalité homme-femme, bien, il faut croire aussi que ça aide une société d'avoir des proches aidants. Alors, c'est des valeurs, à mon avis, qui sont au-delà de juste gérer une virgule dans un projet de loi, là. Même si la virgule est aussi importante, là.
Ça va trop vite, Nicole. Je dois déjà te remercier. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Salutations à ta maman.
Avec plaisir, puis on est tous des saintes et des saints, hein, tout ce monde-là, le procédant.
Merci, Nicole. On va à une pause publicitaire, chers amis.
Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez une vaste sélection de mobilier de salon, cuisine et chambre à coucher, de matelas et d'électroménager pour répondre à tous vos besoins. Nos conseillères pourront vous guider afin d'ajouter audace et élégance à votre décor. Profitez aussi de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Visitez le meuble beaulieu.ca ainsi que notre page Facebook pour découvrir nos collections et les nouvelles tendances. Meubles André Beaulieu, spécialiste en matière de mobilier de qualité de génération en génération.
CJSO triple solide.
Achetez une publicité
et obtenez-en deux de plus
gratuitement.
Vous êtes un commerçant
et vous souhaitez donner plus de visibilité
à votre entreprise?
Faites parler de vous trois fois plutôt qu'une à la radio.
Quel que soit votre secteur d'activité,
faites votre entrée sur nos ondes
et découvrez une nouvelle façon d'élargir votre réseau dans la région
et plus loin encore,
sans effort.
Triplez vos chances de montrer qui vous êtes
et propulsez votre entreprise avec la promotion
CJSO triple solide.
Informez-vous.
Certaines conditions s'appliquent.
Promotion et diffusion d'ici le 31 mars.
Mardi dans Valérie l'après-midi, on ouvre la boutique de souvenirs avec notre créateur de moments, Jean-Pierre Gravel. On parle de hockey olympique avec le journaliste Richard Lappé et vous pourriez gagner des cadeaux en cette semaine de l'inclusion sociale.
Valérie d'après-midi. Une présentation de l'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7 avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Cette émission est consacrée à la proche aidance puis au maintien à domicile. Je joins pour poursuivre la discussion Francine Laplante, qui est travailleuse de milieu. Bonjour, Francine.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est une travailleuse de milieu? Commençons donc par ça. Quelles sont vos fonctions?
Je vais essayer de vous décrire ça brièvement. Selon le programme ITMAV par lequel on est financé.
Dites-moi donc d'abord ITMAV. ITMAV, ça veut dire quoi, là, cet acronyme-là?
Ça veut dire Initiative de travail de milieu auprès des aînés vulnérables, qui est un programme du gouvernement provincial.
Parfait. Alors, je vous laisse aller.
Parfait. Donc, les trois critères de base, c'est repérer, accompagner et référer. Donc, mon mandat, moi, c'est de connaître tout ce qui existe, d'essayer de connaître tout ce qui existe comme ressources, autant au niveau communautaire, au niveau des services du CIS, du CLSC, au niveau des organismes gouvernementaux, des résidences et tout ça. C'est de connaître tous ces services-là pour pouvoir référer les aînés au bon endroit puis les accompagner si nécessaire, là, si les gens ont plus de difficultés à faire les démarches pour quelque raison que ce soit. C'est autant pour quelqu'un qui cherche à aller faire une activité, puis sait pas trop à quel endroit s'adresser. C'est pour des gens qui sont plus en perte d'autonomie, qui aimeraient être relocalisés dans une RPA, qui sait pas trop laquelle choisir. Nous, on les connaît toutes. Là, j'ai une de mes collègues qui a fait le tour de toutes les résidences pour aller recenser quel genre de service ils offraient, à quel prix et quel genre de clientèle. C'est pour aider à compléter des documents qui sont complexes ou à les lire tout simplement. Des fois, on a des documents qui arrivent du gouvernement et on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, si on a des démarches à faire ou pas à ce sujet-là. C'est de soutenir les aidants naturels qui ont besoin de connaître les services. On sait que quand on est dans le besoin, on n'a pas nécessairement envie et le temps de contacter 4-5 organismes sans savoir si on est à la bonne place. Donc, nous, on est là pour diriger les aînés et les aidants naturels au bon endroit du premier coup et même de les aider à faire la démarche jusqu'à ce que le service soit en place. Ça peut être de vérifier s'ils ont toutes les ressources financières les services de financement auxquels ils ont droit. C'est vraiment très, très large, là. On n'a pas de barème clair. Quand un aîné ressent qu'il a un besoin et qu'il ne sait pas où s'adresser, ben, il nous contacte tout simplement, puis nous, on fait les démarches pour cette personne-là, là, pour l'aider à vraiment avoir le bon service au bon moment, là.
D'accord. On a beaucoup dit de la population de Pierre-de-Sorel qu'elle est vieillissante. Est-ce que se posent ici davantage qu'ailleurs les enjeux de maintien à domicile? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain?
C'est sûr que la population de la région de la MRC Pierre-de-Sorel, je dirais plus que Sorel directement, est assez vieillissante. On est dans les MRC les plus âgés. Je dirais que c'est environ le tiers de la population là, de la MRC là, qui a plus de 65 ans. On a des gens qui sont assez vieillissants, qui sont 90 ans et plus. On appelle ça le grand âge. Les défis, il y a deux défis. Un, c'est de rester à domicile, comme je disais, de faire connaître les services parce que les gens ne savent pas où s'adresser. Puis ils sont pas, quand ils sont dans le besoin, ils ont pas nécessairement le temps, le goût et les capacités de contacter le bon endroit. Souvent, les gens ne sauront pas exactement de quel service ils ont besoin. Ça, c'est pour le maintien à domicile. Il y a aussi du financement possible pour aider à payer les services qui vont à domicile. Ma collègue vient de faire une tournée de tous les services qui peuvent se déplacer à domicile encore pour donner plus d'outils aux aînés pour qu'ils puissent demeurer chez eux. Ça, c'est le gros défi si on veut rester à la maison. Il y a aussi le défi de l'aidant naturel qui, lui, doit soutenir une personne. Puis encore une fois, c'est pas nécessairement où se diriger, puis avoir la bonne réponse du premier coup, là, puis respecter les besoins de l'aîné aussi.
J'allais justement finir avec ça, Francine. Les proches aidants et les proches aidantes que vous croisez dans le milieu, est-ce qu'ils trouvent de l'appui où ils sont? Il y en a beaucoup qui sont épuisés.
Ah, l'épuisement, on dirait que aidant naturel et épuisement, là, ça va souvent de pair, là, malheureusement. Peu de soutien, souvent c'est un aidant naturel pour tous les besoins de l'aîné. C'est sûr que c'est plus facile quand il y a plusieurs aidants naturels autour de la même personne pour pouvoir combler tous les besoins, mais quand c'est juste une personne, je dirais que c'est presque un travail à temps plein, là, autant de jour que de nuit pour les craintes et tout ça. C'est souvent pour cette raison-là que l'aîné en besoin finit par être relocalisé en résidence, là, en RPA, pour aider à soutenir l'aidant naturel, pour éviter l'épuisement de l'aidant naturel.
Francine, on vous rejoint comment?
450-881-7017 et ma collègue qui vient d'être embauchée au mois de novembre, qui fait le même travail que moi, 450, c'est Stéphanie Lontain, au 450-880-7017.
Merci beaucoup, Francine Laplante.
Ça me fait plaisir.
Alors, je conclue cette émission trop courte, je dis toujours ça, en compagnie de Claudine Kelleny. Elle est agente de communication à l'Association des aidants naturels du Bas-Richelieu. Bonjour, Mme Kelleny.
Bonjour, M. Rochon.
Combien compte-t-elle de membres, l'association, dites-moi?
Nous sommes à plus de 200. On existe quand même depuis plus de 25 ans, donc on a dépassé les 800 et quelques. J'ai pas le chiffre exact, là, mais on est à peut-être autour de 210-215 là, pour...
On a accès chez vous, à l'Association des aidants naturels, à des services de répit à domicile ou de halte répit. Comment ça s'articule, ces services-là?
Alors, la halte répit, c'est à notre adresse, qui est au 55 Place Filion. Ça se passe le jeudi de 8h30 à 4h. L'aidant naturel vient nous porter son aidé, ça peut être son conjoint, ça peut être son parent âgé. Il vient le reconduire pour toute la journée et il y a deux de nos accompagnatrices qui passent la journée avec les aidés à la halte répit. Donc, ils passent une journée où ils ont du plaisir, ils vont s'amuser, ils vont jouer au bingo, ils vont chanter, ils vont dessiner. Donc, les aidés qui peuvent venir à la halte répit doivent être autonomes dans leur déplacement. Par contre, si ce n'est pas le cas, nous offrons le répit à domicile. Donc, nous avons 16 accompagnatrices qui sont toutes rémunérées. On ne parle pas de bénévoles. Ce sont des accompagnatrices qui sont rémunérées et qui vont à domicile par tranche de 4 heures. Pour être présent à la maison auprès de l'aidé, pendant que l'aidant naturel peut à ce moment-là lui sortir, soit aller faire les commissions, soit aller à la pharmacie, soit prendre du répit pour lui, et c'est ce qu'on leur propose fortement. Donc, nous offrons ce répit à domicile. On a des subventions là qui nous sont offertes. Là. C'est une entente de service que nous avons.
Ce que je disais tantôt, j'accélère. Ce que je disais tantôt, je crois que c'est à Nicole, c'est qu'on n'est généralement pas préparé à assumer le rôle d'aidant naturel quand en survient la nécessité. Or, vous offrez à l'association formation et soutien?
Oui, tout à fait. Donc, en plus des répits, on peut offrir du soutien moral par le biais là, d'un intervenant. Donc, il y a des groupes de soutien. Donc, ce sont des aidants naturels qui viennent à nos bureaux et qui sont chapeautés par notre intervenant. Et il y a aussi des rencontres individuelles avec notre intervenant, ce qui permet à l'aidant de mettre des mots, de parler de ses émotions sans être gêné de le dire ni de le faire, parce que là, il a une écoute, il a un soutien. Donc, on a l'écoute, l'accueil, on va référer les gens aussi à d'autres organismes.
Il y a enfin chez vous, et je continue de dire que je vais rapidement, il reste quelques secondes, il y a enfin chez vous déjeuner, causerie, dîner, conférence. D'ailleurs, au moment où l'on se parle, se tient le dîner mensuel de l'association. C'est un moment pour briser l'isolement?
Oui, tout à fait. C'est très apprécié de nos membres. Il y a des thématiques qui sont prisées par eux et ils doivent s'inscrire, nous signifier qu'ils seront présents. Donc, il y a un dîner qui leur est servi et ensuite, il y a un conférencier ou une conférencière qui les entretient pendant une heure et demie parfois, de sujets qui répondent beaucoup à leurs questions. À leur questionnement.
L'association a un site web, une page Facebook, un numéro de téléphone peut-être pour nous en terminant?
Oui, c'est le 450-880, le 730-0880.
Donc, 730-0880.
C'est bien ça.
Très bien, merci beaucoup Claudine Kelleny.
Merci à vous pour l'opportunité. Au revoir.
Merci. Geneviève et Kathleen sont demeurées avec moi en studio. Il reste une minute. On n'a rien réglé là, ce midi, évidemment, mais au moins on aura levé le voile, on aura contribué à lever le voile sur vos réalités. C'est important que la communauté puis les décideurs les saisissent bien, ces réalités-là, Kathleen, Geneviève?
Absolument. Je trouve qu'on n'en parle pas assez des personnes avec des besoins particuliers, des personnes handicapées. Sincèrement, les filles n'en ont pas parlé. Ils ont parlé que des personnes âgées. Fait que je vais le répéter encore, ça va être les proches aidants qui vont être là pour des décennies. Sincèrement, moi, j'en ai pour 40, 50, 60 ans encore. J'en ai déjà 10 ans de fait.
Il n'y a pas d'ailleurs une association qui s'appelle Parents pour toujours?
Oui, absolument. C'est ça. Va finir avec eux autres parce que je ne veux pas m'emmener. Mon enfant va devenir un adulte, mais ça reste un enfant dans un corps d'adulte. Ça va être ma réalité, ça.
C'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Cette émission, malheureusement, l'a démontré. On parle davantage des aînés là, qui nécessitent l'aide de leur famille, de leurs enfants ou de leurs conjoints et conjointes. Geneviève, elle a été un peu entre les deux.
Ouais.
Ton mari n'était pas vu, il était dans la cinquantaine.
Il est décédé à 56 ans, oui.
C'est très jeune, 56 ans.
Mais il était considéré comme une personne âgée à cause qu'il avait une maladie de personne âgée.
Oui, l'Alzheimer, c'est ça.
Mais tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que le gouvernement va décider, là, je peux le dire, c'est pas assez, puis je vais continuer à me battre pour avoir plus que ça. Parce que peu importe la maladie, peu importe le proche aidant, le lien que tu as avec ou quoi, si les personnes, on doit les mettre dans des institutions, ça va coûter énormément cher au gouvernement.
Beaucoup
plus cher. Peu importe.
Mmh.
Fait qu'il faut commencer à penser à rémunérer les proches aidants, pour vrai. Avec un vrai salaire.
Et on peut continuer à te suivre sur Facebook et TikTok.
Oui.
Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, Geneviève et Kathleen. Merci à l'ensemble de mes invités, Marguerite Blaine, Nicole Léger, Francine Laplante et Claudine Kelleny. La semaine prochaine, on va recevoir ici de jeunes scientifiques de Bernard Gariépy et Fernand Lefebvre. À la semaine prochaine.